Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi, dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Clément Baudet, assistée de Karen Dehé, avec à la technique aujourd'hui Tristan Gratalon et Guillaume Roux.
Cette semaine, nous allons dans le cul-de-sac de Calais et au Millipol, le supermarché de la sécurité.
Alors, police, donc c'est du maintien de l'ordre, c'est de la neutralisation d'individus.
Pourquoi ça passe pas? Parce qu'il y a 7000 immigrants. Pourquoi il y a 7000 immigrants? Parce que ça passe pas. Ils ont bloqué les frontières, ils ont bloqué.
La sécurité, c'est notre métier.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Le malheur des uns fait les affaires des autres. Le malheur d'une société plongée dans l'effroi après les attentats sanglants qui ont frappé la ville. Le malheur des migrants fuyant les guerres et la misère, s'entassant dans la jungle à Calais, font les affaires des marchands de sécurité, des marchands de barbelés. Selon un sondage IFOP, 84% des Français acceptent une restriction de leur liberté et la multiplication des contrôles de police en échange de plus de sécurité. C'est dire que le virage sécuritaire du gouvernement de gauche est bien accepté. L'opinion se sent un peu rassurée une fois l'état d'urgence proclamé. Et bravo la police, entend-on au JT. Dans la société post-13 novembre, les héros sont les policiers, les coupables les migrants, parmi lesquels se glissent les terroristes. Et tant pis si de Mohamed Merah aux frères Abdeslam, la majorité de ceux qui ont commis les tueries étaient français. Le malheur des uns fait les affaires des autres. Et les affaires n'ont jamais été aussi bonnes au salon de la sécurité qui se tenait ces jours-ci à Villepinte. 26 000 visiteurs déambulaient dans les allées du plus grand salon mondial dédié à la sécurité intérieure des États, Millipol. Les commandes affluent après les attaques qui nous ont frappés. C'est là que Guy Vanctil s'est rendu pour nous faire découvrir les nouveaux joujoux des répressions de demain. Antoine Chao, lui, s'est rendu de l'autre côté du barbelé, dans la jungle de Calais, le cul-de-sac de l'Europe forteresse. C'est l'autre versant de la sécurité. Toujours plus de contrôle, toujours plus de murs, de barbelés, toujours plus sophistiqués pour empêcher le passage du côté anglais. Voyage donc du côté violent de la société sécurisée. Comme un bruit qui court au supermarché de la sécurité et à Calais, de l'autre côté du barbelé, c'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao. Charlotte Ferry.
Qui vont-ils? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Calais-Frétin. Calais-Frétin, 8 minutes d'arrêt.
Avec ses commerces, ses églises, ses hôtels-restaurants, le plus grand bidonville d'Europe commence à devenir autosuffisant. Un risque pour les autorités, une impasse.
Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est en mouvement.
Et malgré les dernières opérations d'éloignement, de nouveaux arrivent encore tous les jours.
We won't go to England, but the border is closed. It's impossible going to England. You know, we are all Kurdish. We're all Kurdistan.
Yes.
Yes, Kurdish. I don't know. I don't know. Why France opened border for me to come in Calais, and in Calais, he's closed the border. I don't understand.
La frontière est fermée, c'est impossible de passer de l'autre côté, nous disait Aïcha, entourée de ses jeunes copains qui viennent comme lui du Kurdistan irakien. Pourquoi la France me laisse rentrer d'un côté et pas sortir de l'autre? Pourquoi? Oui, grillage, barbelé et matériel de surveillance high-tech prolifèrent pour tenter de contenir ou de disperser plusieurs milliers de réfugiés qui s'entassent dans le bidonville de la jungle, à Calais. Entre ceux qui attendent une réponse à une demande d'asile et d'autres qui espèrent passer au Royaume-Uni, au péril de leur vie, une armada de bénévoles et d'associations humanitaires ou caritatives s'active pour venir au secours de cette population en souffrance. Soudanais, Afghans, Érythréens ou encore Syriens vivent ensemble dans des conditions sanitaires désastreuses et subissent une pression grandissante alors qu'ils sont en quête de protection.
La jungle de Calais est à ce jour le plus grand bidonville d'Europe et chaque jour, de nouveaux migrants s'y installent en espérant toujours passer en Angleterre.
Posé au milieu de la lande, le bidonville s'étend désormais sur 14 hectares.
d'innombrables baraquements de fortune mêlés aux toiles de tente. Voici la jungle de Calais aujourd'hui.
Rajoute la dernière palette et la chaise. Foutu que ça fasse briller nos mirettes de voir le feu danser dessus. Isidine, salam, take a tea before the truck. Isidine, welcome, I wanna give you my luck. Tous le même passeport, on n'est pas tous partis pareil. On vit pas tous le même essor, mais on a tous froid aux orteils. Ici la pluie coule et ruisselle, ici le vent est continu. D'ici tu peux toucher le ciel, vu qu'il nous tombe toujours dessus. Isidine, salam. Before the truck is in, welcome, I wanna give you my luck.
Pourquoi ça passe pas? Parce qu'il y a 7000 immigrants. Pourquoi il y a 7000 immigrants? Parce que ça passe pas. Ils ont bloqué les frontières, ils ont bloqué. Il y a plus de contrôles, il y a 5 contrôles dans le péri, bateau. Et le train aussi, ils ont mis les grillages partout, c'est trop dur. Il y a beaucoup qui meurent, il y a beaucoup d'immigrants qui meurent. Parce qu'ils essayaient sur le camion, voilà, sous le pont aussi, voilà, partout. Et quand le train il démarre, voilà, ils essayaient partout. Ils essayaient, voilà. C'est trop dur, oui, c'est trop dur.
Ramadjan, c'est ça?
Oui, c'est ça, Ramadjan. Ici à Calais, il y a beaucoup d'immigrants. Hein. J'étais mineur quand je suis parti d'Afghanistan.
Et vous êtes parti seul?
Je suis parti seul. Après, j'ai rencontré des amis qui, voilà, dans la rue. Et quand je m'en rappelle ça, oui, c'était trop dur.
Et là, on est sur la rocade. Il y a des grands grillages partout avec des barbelés.
Oui, c'est ça. Ouais.
Parce que ça, c'est la route qui mène au bateau, au ferry.
Ferry,
et là, on voit, c'est le port, là. Hein, c'est ça, c'est le port de Calais.
C'est le port de Calais, oui. Sur 20 km, ils ont mis des grillages, et voilà.
Sur 20 km?
Oui, le double grillage.
De temps en temps, on voit des habits qui sont restés accrochés sur ces barbelés.
Il essayait dessous et il met les couvertures dessus pour traverser.
Et pour essayer de monter dans ces camions qui sont là et qui font la queue pour rentrer dans le ferry, c'est ça?
Oui, exactement, exactement. Là, il passe par là, il y a des scanners ici, voilà, il voit tout dedans. Il regarde tout, il y a un contrôle, après deuxième contrôle, et après troisième contrôle. Dernière, c'est un cinquième contrôle. C'est le Chia qui contrôle tout après. C'est le dernier contrôle. Si ça passe, après, ça. Voilà. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de. Voilà, ils sont calmes. Quand tous les jours, toute la nuit, il s'est dans la sur la pluie et couru derrière le camion. Et plus, il n'en a pas mangé, voilà. C'est trop dur.
Et après, de l'autre côté, pour ceux qui arrivent à passer, il y a des contrôles aussi ou pas? Arrivé en Angleterre?
Si certaines personnes ils ont de la chance, ils n'ont pas de contrôle. Parce que les camions, ils vont aller directement dans l'entreprise. Quand ils ouvrent la porte, les immigrants, voilà, ils sautent. Ils s'en vont. Et sinon, quand ils tapent la porte, la camion, ils tapent la camion. Ouais. Les chauffeurs, ils appellent la police. Voilà. Et la police, ils le renvoyaient soit en Italie, soit en France. Oui. Et les migrants aussi, c'est des êtres humains, hein. c'est pas des animaux, hein, parce que c'est pas venu pour la guerre ici, hein. C'est pas venu pour la guerre, non, non. Et les migrants, ils cherchent le calme, ils cherchent le travail tranquillement, voilà, vivre tranquillement. Si ça passe, après ça va, hein, parce que ça passe pas, c'est ça le problème, ça c'est un grand problème. C'est pas pour profiter, non. Elles ont des difficultés là-bas.
C'est grand Calais, dis donc.
Oui, 66 000 habitants, je crois.
66 000 habitants et 6 000 réfugiés à la jungle.
Oui, 6 000, oui, à peu près, oui. Les migrants, ils viennent, ils bloquent ici. Il y a des migrants qui, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Et les mêmes choses, ça ne change pas, et ils ont resté dans la jungle. On n'a pas de toit, voilà. C'est trop
dur. Et vous, vous êtes resté combien de temps dans la jungle?
Un an à peu près, oui. Et quand l'État a démonté le jungle, et 2009, décembre.
Et vous avez obtenu l'asile en France?
Oui, oui. Ouais. Oui, j'ai fait demande d'asile, voilà. J'ai un an en papier pour l'instant.
Et vous avez renoncé à traverser alors, le channel?
Non, je ne voulais pas traverser. Je voulais rester à Calais. Pour moi, en Angleterre, en France, c'est la même chose, non?
Ah oui?
Oui, oui, pour moi, c'est la même chose, Angleterre.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes salarié de l'auberge des migrants?
Oui. Oui, je suis salarié en auberge des migrants. Pour encore un an après, je vais finir mon contrat de travail avec l'auberge. Je suis chauffeur, je suis tout, oui. Interprète, traducteur, je suis cuisinier, je suis tout, voilà. On donne des vêtements, on donne des couvertures, on donne des tentes, on fait tout, oui. On donne des chaussures, on donne des manger aussi. Avant, on fait 3 jours par semaine, maintenant 2 jours par semaine. C'est pas assez, c'est trop... Comme le Ramadan, non?
Comme le Ramadan?
Oui, comme le Ramadan, ils mangent le soir, après le lendemain soir.
Ah, ils mangent qu'une fois par jour, bah voilà. Ouais.
C'est pas assez, hein.
Ben non. Merci, Ramanjan.
Je parle pas très bien français, hein.
Mais si. Alors, c'est un terrain de gadou avec une rue qui serpente au milieu des cabanes, des tentes. Il y a 6 toilettes là en plastique, mais il y a un gamin qui veut aller aux toilettes, mais il les fait une par une et puis il rentre pas parce qu'elles sont dans un état lamentable. C'est des toilettes qui ont été installées par Médecins du Monde. Là, il y a une distribution de fruits. Il y a un camion qui est en train d'aller des petits sacs en plastique avec deux bananes, un bout de pain. Alors là, vous faites une distribution, c'est ça, de nourriture?
Oui, c'est ça. Suivant les dons qu'on reçoit dans la semaine, on a 1 tonne de pommes et puis 600 kilos de bananes et du pain. Donc pommes, bananes, pain.
Et vous êtes bénévole à l'auberge des migrants, c'est ça?
Absolument, oui. Bon, c'est une association, c'est comme Salam, comme La Vie Active, c'est une association qui œuvre pour essayer de rendre aux migrants une vie à peu près normale, c'est beaucoup dire, mais au moins pour qu'ils survivent, quoi. On a un gros dépôt, on peut fournir des tentes, on peut fournir des vêtements, des chaussures et de la nourriture 2 fois par semaine. Mais on n'a jamais eu tant de monde, quoi. Il y a eu 1000 migrants qui ont été répartis dans différents centres, les CADA, la semaine dernière et la semaine
devant. Les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, hein, les CADA.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Mais on ne voit pas la différence, hein, vraiment. Ou alors ça arrive de plus en plus. Le problème qu'il y a, c'est que les gens ne passent plus en Angleterre à cause des mesures de sécurité et surtout le renforcement des barrières, des barbelés, tout ça. Bien que ça devient carrément un cul-de-sac, puisque on estimait à 50-60 il y a un mois et demi le passage de migrants en Angleterre, et là on n'est pas sûr qu'il y en ait 5 par jour là.
Au péril de leur vie.
Ah ben, la preuve, hein, il y en a 15 ou 16 qui sont morts dans le tunnel depuis le 1er janvier.
Et vous, depuis quand vous mobilisez pour venir en aide aux migrants, hein?
Moi, je suis breton, ça fait 2 mois et demi que je suis là. Moi, ce qui m'a motivé surtout, c'est les migrants qui sont morts en mer. Hein, je suis breton, je navigue pas mal, et je trouvais ça vraiment horrible de mettre des gens sur des rafios pourris, des gens qui se barraient quand il y avait le moindre problème, laissant les gens crever. Ça m'a vraiment choqué. Et bon... Que faire sinon venir à Calais, hein? Là, actuellement, l'auberge des migrants doit réaliser 25 cabanes par jour. Vous voyez, ce genre-là, ou un peu plus...
Ah oui, d'accord, des armatures en bois avec de la bâche agrafée, quoi.
Voilà, oui. Et la plupart des charpentiers, ce sont des Anglais. C'est des conditions complètement inhumaines. Complètement inhumaines. Ah, c'est sûr. Quand on les voit partir le soir, hein, et quand ils rentrent le matin, alors, si vous avez l'occasion de voir les visages, hein, hein, c'est la déception, c'est la fatigue, c'est la faim, c'est vraiment... ça fout les boules, hein, vraiment.
Donc c'est toute la nuit, essayer toute la nuit de traverser, quoi.
Pour la plupart. On estime à 4 ou 5 peut-être par jour, hein, c'est vraiment... Et encore, il faut des fois la complicité des douaniers. Ou... Oui.
Les douaniers qui laissent faire,
voilà,
quoi.
Ou même des policiers. Les portes s'ouvrent et ils referment les portes.
I won't go to Germany because the England very bad.
Jamais ils n'ont été aussi nombreux à vivre sur ce campement aux allées boueuses, insalubre et balayé par les vents.
The weather is every day raining.
Il pleut tous les jours ici.
We live in the tent, very very difficult.
On vit dans des très mauvaises conditions sous des tentes.
From Darfur.
Vous venez du Darfour.
Yeah. Kali to Thomas.
Ça fait 2 mois que vous êtes ici. Vous pensez que c'est possible de passer de l'autre côté?
Non, England. Stay France.
Ah, vous voulez rester en France?
Ouais. Yeah.
Bonne chance.
Oh, thank you.
Là, c'est la queue pour le repas, c'est ça?
Oui.
1 heure.
2 mois.
Ça fait 2 mois que vous êtes là. Ouais.
2 mois.
Et vous pensez que ça va être possible de passer en Angleterre?
No, it's not easy.
It's not easy. C'est pas facile. Hein.
It's very difficult.
And where are you from?
Syria.
Damascus.
Syria. Damascus, Syria.
بحضيني نامي نوم العوافي بحضيني نامي نوم العوافي مصيت شفافك علقن شفافي مصيت شفافك علقن شفافي هي هي.
Thank you.
Alors là, on rentre dans le hangar. Ah ouais, d'accord, c'est un entrepôt gigantesque où il y a tout le matériel des différentes assos qui viennent soutenir les migrants ici. Donc il y a des chariots chargés de cartons. Alors ça doit être des dons. Ça, c'est du shampoing, des cartons de shampoing, des cartons de fringues, d'habits. Des tentes.
En fait, ici, c'est l'entrepôt de l'auberge des migrants. Je m'appelle Sylvain de Saturne. Je suis un poète terrestre ou terrien. Enfin, j'ai appris plein de choses dans ma vie, comme conduire des camions, abattre des arbres, enfin, plein de choses comme ça. Et là, je me sers de mes compétences pour aider les autres sur Calais. Tout ce qui est technique et gestion de stock, quoi. Qu'on gère en coordination avec plusieurs assos anglaises. Notamment Help Calais, Calaid aussi, qui essaie de nous aider de temps en temps. C'est-à-dire, il y a pas mal d'indépendants sur la jungle avec qui on travaille pour faire des distributions et pour recevoir les donations que les Anglais amènent, parce que les Anglais en ce moment amènent beaucoup de donations et ça vient d'un peu ailleurs aussi, hein, bien sûr. Par ailleurs, on a une autre activité un peu plus loin où il y a un workshop, comme ils disaient Rosebif. Il y a un atelier de construction de cabanes. On est en partenariat aussi là-dessus avec MSF. Et on a aussi une équipe de self-builders, comme on dit, où ils amènent directement du bois et des trucs à peu près préfabriqués aux migrants, et on construit avec eux les trucs. Voilà, et on a un projet de cuisine aussi ici, parce qu'il y a plusieurs cuisines qui sont sur la jungle, qui essaient de donner de la nourriture, mais c'est encore le début de cette organisation, donc du coup c'est un peu le bazar, et on va donc créer une cuisine collective ici, pour pouvoir amener de la nourriture un peu partout sur la jungle. Il faut savoir qu'en fait, l'année dernière ici, il y avait à peu près 500 migrants, on était loin des 5000 d'aujourd'hui, quoi. Si ce n'est plus d'ailleurs, on accueille beaucoup de volontaires, parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir aider, mais ils savent qu'il ne faut pas venir en touriste et que vaut mieux se rattacher à d'autres assos qui font ça. Donc là, on gère pas mal l'afflux d'anglais en fait. Les Anglais se sont réveillés, ouais, je pense, avec la photo d'Elan. Ils ont pris conscience aussi que ce merdier leur appartenait aussi beaucoup. Et donc on les aide à trouver leur place dans tout ce bazar qu'est cette charité autour des migrants de Calais.
Cache-toi derrière une palette, ferme la bâche et prie. Tous les moteurs et les mouettes chantent ton nom, mon ami Zidine. Salam, take a tea before the truck. Welcome, I wanna give you my luck. Zidine, my friend.
passeurs d'hospitalité, des exilés à Calais. Un mort à Grande-Synthe, posté vendredi 20 novembre 2015. Il s'agit d'un des nombreux accidents le long des routes ou des autoroutes, sans doute un groupe qui allait passer ou qui revenait d'une tentative de passage.
Passeur d'hospitalité. Alors Philippe Vanson, vous nourrissez le blog Passeur d'hospitalité.
Un blog qui existe depuis février l'année dernière. Et l'idée, c'est d'avoir une source d'information indépendante, régulièrement alimentée sur la situation des exilés à Calais. Que ce soit pour essayer de mieux informer la population de ce qui se passe, de rappeler qu'il y a toute une partie de la population de Calais qui est solidaire aussi, qui n'a pas du tout digéré qu'on mette les gens dans un ghetto en dehors de la ville. Enfin, il y a un peu cette parole-là qu'on entend peu. C'est-à-dire, on voit plein de médias débouler dès qu'il y a 50 crânes rasés qui débarquent à Calais pour nous informer que le génocide de la race blanche est commencé, mais... Il y a aussi toute une solidarité invisible et il y a aussi des gens qui pensent que les exilés, ça fait partie de l'histoire de Calais depuis 20 ans, 30 ans, et que ça fait partie d'un quotidien, que ça fait partie de liens qui se tissent, de rencontres qui se font et que c'est quelque chose d'important aussi pour nous, que ces gens soient là et qu'ils soient dans de bonnes conditions parmi nous pendant leur séjour en ville plutôt qu'à l'écart et dans des conditions dégueulasses.
Alors Philippe Vanson, comment s'organise la solidarité, on va dire, institutionnelle auprès de ces migrants ?
Alors, du point de vue institutionnel, il y a une plateforme de services qui est gérée par une association missionnée par l'État, qui s'appelle la Vie Active. C'est le centre Jules Ferry, c'est un ancien centre de vacances. Donc là, il y a des douches, l'électricité pour recharger les téléphones, un accès à l'eau, une permanence d'information sur l'aide au retour et l'asile, une permanence infirmière, une mise à l'abri des femmes et un repas par jour pour à peu près 2000 personnes quand le bidonville a à peu près 6000 habitants. Et puis voilà, c'est un lieu de service, c'est pas non plus un accueil de jour, par exemple, où on peut venir se poser, assez symboliquement, on fait la queue, on prend sa barquette, on mange debout, si le soleil sec, on peut s'asseoir par terre, mais il y a simplement rien pour s'asseoir, par exemple. Donc, c'est vraiment conçu pour des services à minima, insuffisants. Et puis, à côté, il y a un terrain sur lequel les autorités ont dit que les exilés seraient tolérés à partir du mois d'avril. Donc, la police est venue mettre la pression pendant tout le mois de mars, matin après matin. Le déménagement s'est fait et puis les gens doivent se débrouiller. Donc, ils ont construit un bidonville avec une grosse implication des associations pour rendre les conditions de vie un peu meilleures. Et avec beaucoup de retard, les autorités ont aménagé un accès pompier, 4 points d'eau. Et on met une trentaine de toilettes chimiques pour 6000 personnes. Donc là, les autorités viennent d'être condamnées par le tribunal administratif à mettre plus de points d'eau, plus de toilettes et plus d'accès secours et puis à s'occuper des déchets, tout simplement, parce que c'est quand même important quand il y a 6000 personnes qui vivent dans un lieu. Et l'État fait appel du jugement, donc visiblement, toute amélioration des conditions de vie n'est pas à l'ordre du jour. Parce que si on améliorait trop les conditions de vie, ça ferait un appel d'air. Et il est bien connu qu'à partir du moment où on peut prendre une douche à Calais, tout le monde vient d'Afghanistan et du Soudan pour prendre une douche à Calais. Quoi.
Le campement de Grande-Synthe, près de Dunkerque, était d'ordinaire habité par quelques dizaines d'exilés. Leur nombre a augmenté depuis cet été de manière importante, reflet d'une situation générale qui ne concerne pas que Calais, pour être estimée aux environs de 1500 personnes.
Cazeneuve répète à l'envi que plus personne ne passe, c'est faux. Il y a des gens qui passent, ils nous appellent ou ils appellent leurs amis depuis le Royaume-Uni. Mais ça reste beaucoup plus difficile. Et sachant que ce que cachent les autorités aussi, c'est que c'est pas seulement Calais. Du coup, les gens sont beaucoup plus dispersés sur tous les ports de la Manche et de la mer du Nord, de la Bretagne jusqu'aux Pays-Bas. Et ils essayent aussi de monter dans les camions en amont, le long des autoroutes, jusqu'en Belgique, jusqu'en Picardie et jusqu'en Île-de-France. Donc en fait, effectivement, on met le focus sur Calais, où il y a plein de monde et où ça passe relativement mal. Mais l'une des conséquences du fait qu'il y a plein de monde et que ça passe mal à Calais, c'est que les gens essayent de passer ailleurs, sont beaucoup plus dispersés. Pour l'instant, il n'y a pas d'association dans tous les endroits où il y a réellement des campements comme il y en a dans le Dunkerquois ou plus à l'intérieur des terres, à Nord-en-Fonte, à Angres, etc. Là, c'est des campements plus anciens, il y a des associations, il y a une mobilisation. Il faudra une paire d'années pour que ce soit pareil en Picardie, à Dieppe et ailleurs. Mais on a cette situation vraiment de dispersion et d'élargissement.
Un mort à Grande-Synthe. Un homme de 25 à 30 ans, selon les premières informations. C'est le 22e décès connu à la frontière britannique depuis le début de l'année, de Cherbourg à Dunkerque, le passage de la frontière étant loin de se limiter à Calais. Sweet crickets, little broken soul. Man is so demanding, and demanding.
Pourquoi vous vous mobilisez, vous, ici, à Calais, et sur cette question?
Parce qu'il y a un niveau de violence sur certaines populations. Alors ça pourrait être les populations qualifiées de Roms, ça peut être les migrants à Calais. En tout cas, un niveau de violence qui est exercé par l'État, qui est quand même assez spectaculaire, assez concentré, assez dense. Alors on tue pas les gens, mais effectivement, on leur pourrit l'existence d'une manière assez importante pour qu'on se pose la question de savoir comment notre société produit ça. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une société qui produit ça et jusqu'où on va aller sur ce chemin-là? Alors, c'est pas Calais, c'est un peu plus loin dans le sud, mais on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a défendu dans les instances européennes le fait qu'il fallait pas faire de sauvetage en mer en Méditerranée parce que ça incite les gens à passer puisqu'ils savent qu'ils vont être sauvés par des bateaux européens, donc ils se sentent en sécurité, donc il vaut mieux les laisser se noyer, en fait. Comme ça, ils auront peur de passer et ça bloquera la migration. Voilà, enfin, on est quand même dans un pouvoir totalement cynique qui réagit à chacun de ses échecs par plus de brutalité. Alors là, on le voit vraiment quotidiennement exercé en termes de conditions de vie qui sont maintenues, en termes de violence de la police, en termes d'humiliation, en termes de mise à l'écart. On voit quand même une politique qui s'exerce sur des gens, sur des personnes réelles. Et je pense que ça mérite de s'engager, oui, et que ça nous pose tous la question de la société dans laquelle on vit et de ce qu'elle produit.
Beaucoup d'infos donc sur le blog Passeurs d'Hospitalité, des exilés à Calais, et aussi auprès de l'Auberge des Migrants, de Salam ou de la Vie Active, des associations ou structures qui sont très présentes sur le terrain à Calais. Mais contre les barbelés et les politiques migratoires, les couvertures et les bons sentiments ne suffiront pas à changer la donne. Et maintenant, après avoir rencontré ceux qui se font chasser, allons du côté des chasseurs, de l'autre côté des barbelés, avec Guy Vanctil.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous gagnerons cette guerre.
L'état d'urgence sera proclamé sur l'ensemble du territoire.
Le gouvernement est déterminé à gagner cette guerre, qu'il la gagnera face au terrorisme.
5000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d'ici 2 heures.
Face à de telles opérations de guerre, il faut en face des hommes, des femmes, des troupes d'élite aguerries, mais il faut que les policiers et les gendarmes de France aient tous les moyens pour pouvoir exercer pleinement leur mission.
Des armes, des véhicules blindés, des robots. Millipol, le rendez-vous des industriels de la sécurité, a ouvert ses portes aujourd'hui.
Une affluence inhabituelle au Salon de la Sécurité. Ici est présenté l'arsenal normalement réservé à l'armée, la police ou les douanes. Mais quelques jours après les attentats, de nombreuses entreprises privées sont intéressées par ce matériel de pointe.
Pendant que je passe là au Millipol, je vois une voiture criblée de balles, ballistic protection. Là, c'est des dispositifs pour défoncer les portes. Là, c'est un très joli petit présentoir et c'est que des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et ainsi de suite, dans une jolie vitrine présentée comme des bijoux, des gilets pare-balles pour chiens, des fusils, des pistolets, des armes. Là, c'est des fusils mitrailleurs, là, c'est le stand du Brésil avec encore des gilets pare-balles. Je vous avoue qu'à la fin, c'est un peu lassant, les gilets pare-balles. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les commerciaux en costard-cravate et puis on voit les usagers qui sont plus en treillis. Entre nous, il y a des gars qui ont des carrures. Il vaut mieux pas les bousculer dans les allées.
La guerre revient malheureusement à nos portes, il faut prendre ça en compte.
Pour assurer la sécurité des Français, parfois, on doit restreindre un certain nombre de nos libertés.
4 jours seulement après les attentats s'ouvrait cette semaine le 19e salon de la sécurité intérieure des États, le fameux Milipol. Le pays était attaqué et tous les professionnels du maintien de l'ordre se retrouvaient pour parler des menaces et des outils pour les contrer. Mais alors que nos gouvernements prennent un air martial pour défendre notre sécurité sous état d'urgence, et alors qu'on commence tout juste à comprendre ce que cela peut vouloir dire, ce régime d'exception, chez les professionnels réunis en salon, c'est plutôt business as usual. On garde son sang-froid, on attend de voir si les investissements vont suivre les grandes déclarations politiques, mais on sent tout de même comme un petit frisson à l'idée de se diriger tout droit vers un Patriot Act à la française. Et on n'hésite pas à souffler un peu sur les braises pour balayer une bonne fois pour toutes les voix qui depuis des années s'élèvent contre le marché global de la violence et la gestion policière des sociétés. Raison de plus pour aller à Milipol, comme un bruit qui court au supermarché de la sécurité intérieure. À quelle sauce allons-nous être protégés ?
Afin de vous permettre d'obtenir une meilleure efficacité optimale dans l'utilisation du matériel Protecop, la FFBD TIAP a conçu une méthode d'entraînement centrée sur les équipements que vous allez voir dans la démonstration qui suit.
So now we will see a demonstration of a small part of the FFBD and TIAP's protocol training.
Frappe avec la pointe, plus avec l'aileron.
La protection et l'obtention des armes donnent une meilleure assurance à la fin.
Ben c'est rigolo, on voit des policiers, comme on les appelle, Robocop, c'était les forces de maintien de l'ordre pendant les manifestations, tout harnachées de leur armure et qui sont en train de s'amuser à se donner des coups de matraque et de tonfeu l'un sur l'autre. Et voilà qu'un autre arrive sans uniforme, mais qui est très en colère parce qu'il a une batte de baseball. Il tape sur son collègue policier harnaché. Vous arrivez là tout harnaché,
oui,
et tout équipé et tout rouge parce que vous venez de faire une démonstration.
Oui, bon, on enchaîne les démonstrations type protection en cas de violence urbaine, les techniques de menottage, les techniques d'intervention en milieu hostile, donc, tout un tas de techniques qui sont développées pour pouvoir faire écran par rapport aux jets d'objets, de pierres, voire de cocktails molotov.
Alors moi j'ai besoin de votre expérience et votre expertise aussi sur les nouvelles menaces et les nouvelles manières d'y répondre parce que maintenant c'est quand même malgré tout l'actualité s'est rappelée à nous.
Oui, malheureusement ce qui se passe à l'étranger nous rattrape. C'est vrai que pour l'instant on est peut-être un petit peu désarmé en fait. On n'a pas un GIGN ni un RAID à chaque coin de rue. Et donc il va falloir se préparer aussi à intervenir là-dessus mais aussi peut-être la population, avoir certains réflexes. Il ne faut pas non plus être paranoïaque, il faut être un peu plus vigilant. Malheureusement, personnellement, et ça n'engage que moi, je pense qu'on est au début de ces événements-là, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait, qu'on les attendait, à différents échelons de la sécurité. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri que ça continue, quoi. Donc il va falloir faire attention quand même. Voilà.
Nous allons passer maintenant à la partie maintien de l'ordre ou violence urbaine. Travail face à une agression directe à la batte de baseball.
Mais le français est très contestataire et a un œil sur la police qui n'est pas forcément très valorisant. Tout ce qui est mesure de sécurité, ce n'est pas trop dans sa culture. Il va falloir que le français se batte d'abord contre lui et se soumette un peu.
Et rentrer dans le rang.
Rentrer dans le rang, peut-être pas, mais je suis moi-même, quand j'ai pas une tenue, je suis moi-même un râleur parce que je suis français et fier de l'être. Quand je ne suis pas en armure et pas en tenue, je suis le premier à râler. Donc il va falloir qu'on se plie quand même au contrôle. Pour notre sécurité, c'est de nos enfants, quoi.
Cette démonstration vous a été présentée par la Fédération de formation de bâtons de défense et tactiques d'intervention et applications professionnelles.
Merci à tous, vous avez le droit de les applaudir.
Bravo et merci aux forces de l'ordre.
Je veux leur dire qu'ils sont des grands, je veux leur dire qu'ils sont des courageux, je veux leur dire l'admiration que j'ai pour eux.
Et je veux saluer encore une fois le travail exceptionnel de nos services de renseignement et de la police.
Les policiers seront bientôt autorisés à porter leur arme en dehors du service.
Nous devons donner tous les moyens, comme ça n'a jamais été fait dans notre pays, à la police et à la gendarmerie ainsi qu'au service de renseignement. Tous les moyens.
Une affluence inhabituelle au Salon de la Sécurité. Ici est présenté l'arsenal normalement réservé à l'armée, la police ou les douanes.
Alors nous voici sur le stand russe, c'est ça ?
Oui, la société russe de Moscou. Notre société est March Group. Nous produisons un électrochoc au contact et à distance. 90 000 volts. Nous avons aussi le bouclier électrochoc pour la police.
Donc c'est le bouclier qui vous électrocute au contact,
oui,
quoi.
Oui, au contact, oui.
Ah oui, je ne connaissais pas ça.
Spécialité russe, oui, pour la police. Notre police utilise ces modèles.
Avec ça, on est électrocuté, on tombe ou on...
Oui, il peut perdre conscience, mais de 5 à 10 minutes... Après seulement 3 secondes.
Et ça, vous avez des clients en France de ça ?
Pas encore. Et nous avons beaucoup de clients de l'Afrique, de l'Amérique Sud. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de tirer vous-même.
Ah, sur qui ?
Nous avons le cible.
Ah bon, d'accord, ça bouge. Allez-y, vous. Moi j'enregistre et vous tirez.
Ok, ça va.
Mais pas sur votre collègue, attention.
Non, c'est seulement...
Il a
ça.
L'habitude ?
Oui, comme ça. Comme ça.
Ah ouais.
Possible.
Ah, il y a deux petites fléchettes,
oui,
qui partent avec,
oui,
un fil électrique et on voit les étincelles sur la cible.
Assime.
Et il y a votre collègue qui est à côté qui est en train de se coller contre le mur. Ah ouais, ça c'est un petit pistolet. Et on voit les éclairs,
oui,
là.
Oui.
Ça c'est la marque de fabrique, oui, modèle russe.
Oui. C'est très efficace.
Le bruit aussi, même rien que le bruit fait peur.
Oui, bien sûr.
Et ça s'appelle comment l'appareil ?
Cette modèle, c'est Scorpion Electroshocker.
Electroshocker.
Yeah.
Je vois votre collègue là qui est en train de me viser avec son pistolet, ça me fait toujours un peu peur.
Ça, comme ça.
Les bonnes vieilles matraques et autres instruments contondants restent des valeurs sûres de la sécurité intérieure. Le salon Millipol raffole aussi des nouvelles technologies très raccord avec notre surveillance numérique. Direction le stand israélien où, comme dans un grand salon, on parle de numérique.
What your feet?
On enjambe des herses pour crever les pneus.
Raison Group.
Raison Group is an Israeli company that designed and manufactures solutions in the cyber and intelligence arena.
C'est une société israélienne qui développe des solutions cyber dans le domaine de la surveillance et du renseignement.
The company, all of the employees of the company are either ex intelligence officers, served for many years in the Israeli military and different agencies.
Les gens qui travaillent dans cette société sont tous des anciens des services de renseignement israéliens.
Shin Bet, Mossad. You know better than me. We have a line of products that we have designed based on the knowledge that we have accumulated in the industry.
Et nous avons développé des outils basés sur notre expérience.
In order to enhance the capabilities of law enforcement agencies to fight terror.
Pour pouvoir aider les organisations gouvernementales à lutter contre la terreur.
And to predict and to support the forces in cases of crime or terror organizations.
Et pouvoir même prévenir les attaques terroristes quand elles ont lieu.
I can tell you from my experience that one of our solutions is, it's sad to say, but could really assist the local authorities in previous events.
Like... Et je suis triste de le dire, c'est avec désolation que je le dis, mais qu'une des solutions que nous proposons aurait beaucoup servi aux services français dans les événements qui viennent d'arriver.
One of the systems is called TA9.
Le système TA9.
It's a big data analysis platform.
Une plateforme d'analyse de données.
Which means, and I will give an example, if someone, one agency knows that this guy is not allowed to enter the US.
Par exemple, si une de nos agences sait que tel individu n'est pas autorisé à rentrer le territoire des États-Unis.
And another agency sees that he's bragging or talking about ISIS on Facebook.
Et qu'une autre agence voit qu'il parle de ISIS sur Facebook.
And other agencies sees that he's in Yemen for the past 6 months.
Et une autre agence voit qu'il a été au Yémen au cours des 6 derniers mois.
Our system will automatically raise a red flag, not necessarily there's something bad, but something might lead to something bad.
Notre système, à ce moment-là, à partir du moment où ces données sont recoupées, immédiatement, il y a un drapeau rouge qui s'allume, pas pour intervenir, mais pour porter attention à ce dossier.
All of our solutions are sold only to law enforcement and special agencies with an approval by the Israeli MOD.
Et bien entendu, nos dispositifs ne sont vendus qu'à des agences gouvernementales et qu'avec l'accord de du ministère de la Défense israélien. Ouais, mais alors ça ressemble en fait à ce que décrit Edward Snowden.
In a smaller scale, because we're still not the US, but it's the same arena, it's the same domain. There's a lot of companies that are doing something like that.
Il y a beaucoup d'agences de renseignement qui font la même chose et c'est à peu près comme les États-Unis effectivement. C'est le même domaine, mais bon, c'est pas la même échelle. Do you have contacts with the French officials?
Unfortunately, not yet.
Pas encore de contact malheureusement avec les officiels français. Et ça marche comment alors?
That's the magic.
Ça, c'est le côté magique.
If I tell you, I'm going to be out of business.
Si je vous le dis, j'aurai plus de boulot.
Exactly.
Au Salon Millipol, les drones sont en tête du hit-parade des nouvelles technologies pour lutter contre le terrorisme.
Mercredi, lors de l'assaut de Saint-Denis, des drones munis de caméras ont filmé l'intérieur de l'appartement pour aider l'intervention des hommes du raid. Une nouvelle technologie qui intéresse tout particulièrement les spécialistes réunis en ce moment au Salon mondial de la sécurité et de la sûreté à Paris.
J'ai déposé les gosses à l'école, 8h45, RAS, je décolle. Direction le siège, monte la cocarde, me gare à ma place, dis bonjour à la garde. Badge, sécu, appelle l'ascenseur, monte dans la tour, allume l'ordinateur. Avale un caf avec l'équipe, fais le point, 9h30, le chef rentre et prend la main. D'une voix solennelle, nous fait le bilan de la veille, les pertes essuyées, comment rendre l'appareil. Donne le lieu de la zone à quadriller, puis termine par l'enjeu de cette fin de matinée. 9h42, objectif annoncé, stratégie en place, pion avancé. Rejoins l'étage de ma coalition, là j'encode la bécane et commence la mission. Drone 47.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Nous voilà sur le stand de Aérosurveillance.
Aérosurveillance, c'est une petite société de drones pour le marché de la sécurité intérieure, de défense et aussi pour les applications civiles.
Vous, ce que je vois derrière, c'est qu'il n'est pas mini, quoi, votre drone, il est assez costaud. Le Multi-Purpose Payload Launcher Type 30.
Ça, c'est une nouveauté mondiale, on pense, parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui de système capable de faire la même chose. C'est qu'en fait, on peut mettre différents types de charges. Il y a des fumigènes ou ça peut être des produits qui peuvent être des charges orientées défense ou des charges orientées civiles.
Des drones lanceurs de grenades lacrymogènes. C'est-à-dire c'est de le faire à distance plutôt qu'envoyer les CRS.
En l'air, c'est-à-dire que les manifestations deviennent de plus en plus violentes, qui se traduisent généralement par des dommages des deux côtés, qui sont bien entendu regrettables. Et donc un système comme ça peut permettre justement de contenir des mouvements de foule plus ou moins agressifs.
Alors vous avez des bons contacts avec ça, salon professionnel?
C'est tout nouveau, ça vient de. Enfin, c'est un système qu'on a fait quelques démonstrations à des officiels il y a à peu près un mois. On l'introduit en première mondiale ici à Millipol. Et bah, il va falloir attendre un petit peu. C'est pas des affaires qui se font comme ça en 3-4 jours. Donc, mais on a beaucoup d'intérêt.
Alors moi je suis inquiet parce que j'ai vu votre super drone là, mais à côté ils vendent un anti-drone.
Exactement, malheureusement, vous savez, on a toujours les innovations qui sont faites, on peut toujours leur trouver des bonnes et des mauvaises applications.
Talos, unattended ground radar with no need for infrastructure.
Il y a les dispositifs de drone et les dispositifs anti-drone. Les dispositifs d'explosion et ceux anti-explosion, la détection et de contre-détection, les balles et les anti-balles. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est tout le temps aux deux côtés de la chaîne. On vend le feu et l'extincteur en même temps. Voilà un bon business model.
Quelques jours après les attentats, le contexte est tendu et la sécurité a plus que jamais le vent en poupe. Le marché de la sécurité ne cesse de grossir. Il représente en France plus de 22 milliards d'euros.
Ça, ce bruit qu'on entend, c'est un petit gars chauve qui est en train de donner des coups de nunchaku à un gros gars baraqué avec un gilet protège-cou et une coudière protège-cou. Et tout autour, il y a une foule qui s'est faite avec leur téléphone portable. Et c'est la société Body Protection Solutions, MTech, qui présente ça. Mais maintenant que je dis ça, il y a le petit monsieur chauve qui a posé son nunchaku et qui a sorti un gros poignard. Et son copain baraqué encaisse les coups de poignard sans mouveter. Ils y vont pas pour de faux, hein. Et le petit monsieur range ses nunchaku, sa batte de baseball et sa machette. Prochaine démonstration, 16h30.
En matière de sécurité et de protection, le salon Millipol permet aux professionnels de répondre à leurs besoins croissants d'information et de mise en relation. Le salon est une opportunité de venir s'informer sur les derniers outils et services mis en vente sur un marché florissant, marqué par l'innovation technologique.
Là, je me demandais pourquoi il y avait un tel dispositif de sécurité au salon de la sécurité et de la police. Et en fait, je m'aperçois que c'est une visite officielle. Alors, c'est pas l'émir du Qatar qui était à l'inauguration avec le ministre de l'Intérieur, c'est Marine Le Pen, qui est en ce moment sur le stand de Safran Aerospace Defense and Security, et qui, avec moult caméras et moult services de sécurité, est en train de faire sa petite visite au Millipol, mise à jour peut-être, avec tous les dispositifs d'intervention, de traquage, de traçage, qui collent assez bien avec son programme politique de fermeture des frontières. Ici, elle va trouver tout ce qu'il lui faut pour garantir la sécurité des Français.
Encore personnel d'accueil.
J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il me dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller. Que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon bah je me dis qu'il fait froid, qu'il a peut-être raison. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. Tous les soirs à 20h, la police vous parle.
Nous sommes en guerre, et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles, et nous gagnerons cette guerre.
Une affluence inhabituelle au Salon de la Sécurité. Ici est présenté l'arsenal normalement réservé à l'armée, la police ou les douanes. Mais quelques jours après les attentats, de nombreuses entreprises privées sont intéressées par ce matériel de pointe.
France a peur.
Police.
Tous les soirs à 20h.
Donc c'est du maintien de l'ordre.
Police, vous parle.
C'est de la neutralisation d'individus.
Tous les soirs à 20h.
Les policiers seront bientôt autorisés à porter leur arme en dehors du service.
La police vous parle.
Oh, un bruit qui court.
La sécurité, c'est notre métier. Je suis François Vigneault-Préfontaine, je suis le directeur sales et marketing d'une société qui s'appelle BATS. BATS, c'est Belgium Advanced Technology Systems, c'est une société belge comme son nom l'indique. Ma société met en avant des technologies avancées, en particulier des radars et tout ce qui est imagerie thermique, permet d'avoir une image en temps réel de la situation sur certaines zones du territoire, par exemple de la frontière entre la Grèce et la Turquie, où certaines portions sont équipées de radars de détection à longue distance de surveillance.
Qu'est-ce que vos dispositifs peuvent permettre d'empêcher ?
Alors, sur l'actualité immédiate, il faut se méfier effectivement à la fois de l'émotion et aussi d'une analyse trop rapide. Nos systèmes ne vont pas mettre un terme aux activités des terroristes, car malheureusement, c'est surtout sur la surveillance humaine. Notre technologie pourrait être adaptée, par exemple, pour surveiller les abords de l'entrée du tunnel sous la Manche. Maintenant, vu le nombre d'immigrants qui cherchent tous les jours à pénétrer, vous pensez bien que ce n'est pas un radar qui va l'arrêter. Il s'agit là de mettre des hommes, des boots on the ground, comme on dit en anglais, pour empêcher ces gens de rentrer dans le tunnel. Mais là encore, il est complètement illusoire de vouloir se reposer uniquement sur la technologie. Ce n'est pas la technologie pure qui va régler le problème à la racine. Et le problème à la racine, ce n'est pas en France qu'il se trouve. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est à la fois un problème technologique, mais surtout un problème sociétal et un problème humain. Et il faut, une fois de plus, ne pas regarder uniquement sur notre territoire, mais bien au-delà de nos frontières. Les problèmes sont mondiaux aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par sociétal ?
Les pays riches doivent se faire à l'idée qu'ils sont et ils resteront pendant encore très longtemps des zones d'attraction pour des régions moins développées du monde. Il faut l'accepter. Et c'est en cela que c'est un problème sociétal, car acceptons-nous d'avoir davantage d'immigration dans notre région. Nous sommes un pays, une région riche, opulente, vieillissante. Que voulons-nous ? Il est temps de prendre conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes une zone riche, opulente, qui bénéficie de la paix. Cette paix a un prix. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde calme. Il y a un prix à payer pour la liberté. La liberté n'est pas un don, la liberté malheureusement se paie, et se paie en partie par un certain renoncement à une certaine liberté que l'on avait, ou une absence de surveillance, et il faut accepter ce prix-là.
Pour assurer la sécurité des Français, parfois on doit restreindre un certain nombre de nos libertés.
Innovate Security Defense Equipment. Innover la sécurité, la défense et l'équipement.
Pour la défense. C'est la marque de Redcore, qui est une PME bretonne basée à Lorient. Et nous présentons donc au Millipol en avant-première un projectile moins létal.
Moins létal.
Moins létal. Létalité atténuée, létalité réduite, moins létale, il y a plein de termes qui qualifient ce type de projectile. C'est essayer de ne pas tuer la personne en tirant dessus, en fait. Voilà. Et donc, c'est quand même une science très récente. Hein.
Parce qu'avant, on tirait
pour tuer. Ça, c'est très facile. Ça, vous en trouverez ici.
Il y en a plein. Tous les coins d'allée.
Essayer justement de réduire la létalité.
C'est vrai que le flashball, il y a régulièrement des enquêtes ou régulièrement des plaintes qui sont déposées parce qu'un tel a perdu un œil, un tel s'est retrouvé blessé gravement, etc.
Nous, notre munition va coulisser dans le canon et qui va effectuer une rotation de 90 degrés à la sortie du canon.
C'est une balle qui tourne, quoi.
Elle tourne une fois. Elle tourne une fois et après elle se stabilise et donc va impacter sur une surface beaucoup plus importante qu'une bille de 18.
Donc voilà. Ça fait moins mal.
Alors, ça fait plus mal.
Ah bon ?
Ça fait plus mal, mais il y a moins de dégâts internes. Voilà. Donc, c'est une innovation 100% française et bretonne. Mais là, moi, je vais parler dans notre partie, hein, dans la partie létalité réduite. On voit que même des États un petit peu moins sensibles aux droits de l'homme, mais des pays africains, qui se disent, nous aussi, on veut commencer aussi à utiliser des autres choses que de l'arme de guerre pour
réprimer les populations.
Enfin, je sais pas, mais au moins pour rétablir l'ordre dans leur pays, quoi. Voilà.
Je passe du coq à l'âne, mais ouais. Je vois vous faites des caleçons aussi.
Oui.
Ça n'a rien à voir, mais.
Oui, on fait des caleçons. Alors, ce sont des caleçons balistiques. C'est en fait, ça s'appelle un blast boxer. C'est pour l'effet de souffle et pour tout ce qui est un peu projection. Et
caleçon blindé,
voilà.
C'est ça, une espèce de coquille.
C'est une coquille blindée pour les phases d'assaut, où on a du Kevlar. Donc, ce sont sur les parties
sensibles.
On va dire sensibles, voilà, tout à fait. Et donc, voilà, donc, et tout ça, c'est de l'innovation.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous recommandons l'ouvrage de Leslie Wood, « Mater la meute, la militarisation de la gestion policière des manifestations », suivi du « Marché global de la violence » de Mathieu Rigouste aux éditions Luxe. C'était comme un bruit qui court, toutes les informations et les liens sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast. Après les informations, vous retrouvez la preuve par Z et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.